Les temps difficiles, livre 3, chapitre 36. Philosophique. Quand ils furent rentrés dans la baraque, Sleary commença par fermer la porte pour empêcher les intrus d'y pénétrer. Bitzer, tenant toujours à la gorge son prisonnier que la peur paralysait, restait au milieu du cirque, regardant d'un œil clignotant son ancien patron à moitié perdu dans l'obscurité du crépuscule. « Bitzer, » dit M. Gradgrind, complètement abattu et d'un ton de soumission très humble, « avez-vous un cœur ?»«
La circulation, monsieur, » répliqua Bitzer, qui ne put s'empêcher de sourire à cette question tant il la trouvait bizarre.
La circulation ne pourrait pas se faire sans cela. Il n'y a personne, monsieur, pour peu qu'on soit familiarisé avec les faits établis par Harvey concernant la circulation du sang, qui puisse douter que j'ai un cœur.
Est-il accessible, dit monsieur Gradgrind d'une voix suppliante, au sentiment de compassion?
Il est accessible à la raison, monsieur, répondit le disciple des faits. Et pas à autre chose. Les deux interlocuteurs se regardèrent. Le visage de M. Gradgrind était aussi blanc que celui de l'espion.
Quel motif, je dirais même, quel motif raisonnable pouvez-vous avoir pour empêcher la fuite de ce malheureux garçon, dit M. Gradgrind, et pour accabler son malheureux père?
« Voyez sa sœur. Ayez pitié de nous. »«
Monsieur, » répondit Bitzer d'un ton décidé et logique, « puisque vous me demandez pourquoi je veux ramener le jeune monsieur Tom à Kirkville, je suis trop raisonnable pour ne pas vous le dire. Dès le début, j'ai soupçonné le jeune monsieur Tom du vol de la banque. J'avais déjà l'œil sur lui, même auparavant. » car je voyais bien sa conduite. J'ai gardé mes observations pour moi, mais cela ne m'a pas empêché de les continuer. Et aujourd'hui, j'ai une ample collection de preuves contre lui, sans compter sa fuite et son propre aveu, que je suis arrivé juste à temps pour entendre. J'ai eu le plaisir de surveiller votre maison hier matin, et je vous ai suivi jusqu'ici. Je vais ramener le jeune monsieur Tom à Kirkville, afin de le remettre entre les mains de M. Barnaby. Je suis persuadé, monsieur, que M. Barnaby me fera monter en grade et me donnera la place du jeune M. Tom. Et je désire avoir cette place, monsieur, car elle m'avancera dans le monde et me fera du bien.
Si ce n'est pour vous qu'une question d'intérêt personnel, commença M. Gradgrind.
Ah, pardon de vous interrompre, monsieur, répliqua Bitzer. Mais vous ne pouvez ignorer que le système social tout entier se résume dans une question d'intérêt personnel. C'est toujours l'intérêt personnel qu'il faut bien que l'on consulte. Ce n'est que par là qu'on tient les gens. L'homme est ainsi fait. J'étais encore bien jeune lorsque j'ai été nourri de ce catéchisme-là, monsieur, vous savez.
Quelle somme, dit M. Gradgrind, accepteriez-vous en échange de la promotion sur laquelle vous comptez?
Je vous remercie bien, monsieur, répliqua Bitzer, de la proposition détournée que vous voulez bien m'adresser, mais je suis décidé à n'accepter aucune indemnité semblable. Comme je connais vos principes pratiques, j'avais prévu que vous m'offririez une alternative de ce genre. J'ai fait mes petits calculs et j'ai trouvé plus sûr et plus avantageux pour moi de monter en grade à la banque que de vendre mon silence à un voleur, quelque somme qu'il puisse m'offrir.
« Bitzer, » dit M. Gradgrind, étendant les bras comme pour dire « Voyez combien je suis misérable. »« Bitzer, il ne me reste plus qu'un moyen de vous attendrir. Vous avez été... bien des années à l'école que j'ai fondée. Si, en souvenir des soins qu'on vous a prodigués,
vous pouvez oublier un instant votre intérêt personnel et relâcher mon fils. Je vous prie et vous supplie de lui acquitter ce souvenir reconnaissant. »
« Je m'étonne vraiment, monsieur, » répliqua l'ex-élève, habile à la riposte,
« de vous voir prendre dans la controverse une position qui ne peut se défendre. Mon éducation a été payée, c'était un marché passé, et lorsque j'ai quitté l'école, le marché finissait là. »
C'était un principe fondamental de la philosophie Gradgrind que toute peine mérite salaire. Personne ne doit, sous aucun prétexte, donner quoi que ce soit, ni aider qui que ce soit pour le roi de Prusse. La reconnaissance doit être abolie avec les vertus qui en découlent. Chaque centimètre de l'existence des hommes, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, doit être un marché débattu et conclu sur le comptoir. Et si nous n'arrivons pas au ciel par ce chemin-là, c'est que le ciel n'est pas un endroit politico-économique, et alors nous n'y avons que faire.
« Je vous accorde, » ajouta Bitzer, « que mon éducation ne m'a pas coûté grand-chose. Qu'est-ce que cela prouve? Si j'ai été fabriqué à bon marché, ce n'est pas une raison pour que je ne cherche pas à me placer le plus cher possible. »
Bitzer fut un peu dérangé à cet endroit de son discours par les pleurs de Louise et de Sissi.
« Ne pleurez donc pas comme cela, je vous prie, » dit-il. « Ça ne sert qu'à agacer. Vous avez l'air de croire que j'en veux au jeune monsieur Tom. Mais pas du tout. C'est seulement par suite des motifs raisonnables que je viens de vous exposer que je veux le ramener à Coqueville. Qu'il s'avise de résister et je me mettrai à crier « Au voleur !»
Mais il ne résistera pas. Soyez-en bien convaincus. »
Monsieur Sleary, qui, la bouche béante et les deux yeux aussi fixes l'un que l'autre, avait écouté ces doctrines avec la plus profonde attention, s'avança à son tour.
« Monsieur, » dit-il en s'adressant à Monsieur Gradgrind, « vous avez parfaitement bien, et votre fille sait aussi bien que vous, ou même mieux que vous. Puisque je lui ai dit que j'ignorais ce que votre fils avait fait et que je ne tenais pas à le savoir, car je me figurais qu'il ne s'agissait que de quelque fredaine. Mais ce jeune homme, ayant déclaré qu'il est question du vol d'une banque, ma foi, ça devient sérieux, beaucoup trop sérieux pour que je puisse traiter avec vous, comme a très bien dit ce jeune blond. Par conséquent, monsieur, il ne faut pas m'en vouloir, si je prends le parti de ce jeune blond, et si je dis qu'il a raison et qu'il n'y a pas moyen de sortir de là. Mais je vais vous dire ce que je puis faire pour vous, monsieur. J'attellerai un cabriolet, et je conduirai votre fils et ce jeune blond jusqu'à la gare, de façon à empêcher un esglandre ici. Je ne puis consentir à faire davantage, mais je ferai ça. »
Cette désertion du dernier ami qui leur resta provoqua de nouvelles lamentations de la part de Louise et causa une affliction plus profonde encore à M. Gradgrind. Mais Sissi, en regardant attentivement M. Sleary, ne s'était pas méprise sur les intentions véritables du directeur. Comme tout le monde se dirigeait vers la porte, ce dernier honora la jeune fille d'un léger roulement de son œil mobile. C'était une manière d'inviter Sissi à rester un instant en arrière. Fermant alors la porte à clé, il lui dit avec beaucoup d'animation
« Votre patron est resté votre ami, Zézil, et je resterai le sien. D'ailleurs, le jeune blond est une fameuse ganaille, et il appartient à cette brute orgueilleuse que mes pensionnaires ont manqué de jeter par la croisée. La nuit,
sera très noire. J'ai un cheval qui fait tout ce qu'on veut, excepté de parler. J'ai un poney qui trotte 15 000 à l'heure, quand c'est Childers qui le mène. J'ai un chien qui tiendra un homme cloué à la même place pendant 24 heures de suite. Dites deux mots à l'oreille du jeune Mosieux. Dites-lui de ne pas avoir peur de verser lorsque notre cheval commencera à danser, mais de guetter l'arrivée d'un tilbury attelé d'un poney. Dites-lui de sauter à terre aussitôt qu'il verra approcher ce tilbury, car ce poney-là lui fera joliment rattraper le temps perdu. Si mon chien permet au jeune blond de mettre seulement pied à terre, je lui permets d'aller à Rome. Et si mon cheval bouge avant demain matin de l'endroit où il aura commencé à danser, c'est que je ne le connais pas. Allons, vivement !»
On agit si vivement, en effet, qu'au bout de 10 minutes, M. Childers, qui flânait en pantoufles sur la place du marché, avait déjà reçu le mot d'ordre, et l'équipage de M. Sleary était déjà prêt. C'était un beau spectacle de voir le chien savant aboyant autour du véhicule, tandis que M. Sleary, par un simple mouvement de son œil mobile, recommandait Bitzer à l'attention particulière de l'intelligent quadrupède. La nuit venue, les trois voyageurs montèrent dans la voiture et se mirent en route. Le chien savant, animal d'une taille formidable, tenait déjà Bitzer fasciné sur son siège et ne s'éloignait pas de la roue près de laquelle il était assis, afin d'être tout prêt à l'empoigner dans le cas où il témoignerait la moindre velléité de mettre pied à terre. M. Gradgrind et les deux jeunes filles veillèrent toute la nuit à l'auberge. Le lendemain, à 8 heures du matin, M. Sleary et le chien se présentèrent ensemble, aussi joyeux l'un que l'autre.
« Tout va bien, Mosieux, » dit M. Sleary. « Votre fils est sans doute déjà embarqué. Childers l'a pris en route à 1h30 d'ici. Le cheval a dansé la polka à ne plus pouvoir tenir sur ses jambes. Il aurait valsé s'il n'avait pas été attelé. Et alors, je lui ai dit un mot dans l'oreille et il s'est mis à dormir comme un bienheureux. Lorsque cette fameuse canaille de jeune blond a voulu continuer la route à pied, le chien s'est accroché à sa cravate, les quatre pattes en l'air. Il l'a renversé et roulé sur le macadam. Alors, il est remonté et il n'a plus bougé. Jusqu'au moment où j'ai tourné la tête de mon cheval, ce matin à 6h30.
M. Gradgrind, cela va sans dire, l'accabla de remerciements et donna à entendre avec infiniment de délicatesse qu'il était tout disposé à reconnaître ce service par le don d'une jolie somme en argent.
« Je n'ai pas besoin d'argent pour moi, Mosieux. » Mais Childers est père de famille, et si vous teniez à lui offrir un billet de 5 livres, peut-être trouverait-il l'offre acceptable. Et puis moi, si vous teniez à présenter un collier au chien ou une coiffure de clochette au cheval, je les prendrais bien volontiers. Du grog, j'en prends toujours. »
Il en avait déjà demandé un verre, et il en demanda un second.
« Si je n'étais pas allé trop loin, Mosieux, que de vous proposer de donner un petit vestin à la troupe, à environ quelques pence par tête, sans compter le chien, ça leur ferait grand plaisir à tous. »
M. Gradgrind déclara qu'il était tout prêt à donner ses petits témoignages de sa reconnaissance. Il les trouvait bien légers, dit-il, en échange d'un pareil service.
« Très bien, Mosieux. Dans ce cas, si vous voulez seulement commander un spectacle, chaque fois que vous le pourrez, aux écuyers que vous rencontrerez, c'est nous qui deviendrons vos débiteurs. Maintenant, mes yeux, si votre fille veut bien le permettre, j'aurai un mot à vous dire avant de vous quitter.
Louise et Sissy se retirèrent dans la chambre voisine. Monsieur Sleary, remuant et buvant son grog, continua en ces termes.
Mes yeux, je n'ai pas besoin de vous dire que le chien est un animal étonnant.
Son instinct, dit M. Gradgrind, est quelque chose de merveilleux.
Appelez la chose comme vous voudrez, et je veux être pendu, si je sais quel nom lui donner, dit Sleary. C'est surprenant! La façon dont un chien vous retrouvera, le chemin qu'il fera pour vous rejoindre.
Son flair, dit M. Gradgrind, est si sûr.
Je veux être pendu, si je sais comment appeler ça, répéta Sleary secouant la tête. Mais j'ai vu un chien me retrouver d'une manière qui m'a fait croire qu'il sera allé trouver un ami et lui aura demandé « Vous ne connaîtriez pas par hasard un individu du nom de Sleary, hein ?»« Un individu du nom de Sleary qui tient un manège un peu gros, l'œil éveillé. » Et que cet ami lui aura répondu « Ma foi, je ne puis pas me vanter de le connaître personnellement, mais je sais un chien. » qui est bien capable de l'avoir rencontré. Et que cet autre chien, consulté, aura réfléchi un moment avant de lui dire « Sleary, Sleary, attendez donc. » Eh oui, parbleu, quelqu'un m'a parlé de lui il n'y a pas longtemps. Je puis vous avoir son adresse en un clin d'œil. Comme je me montre si souvent en public et que je vois tant de pays, il y a énormément de chiens qui me connaissent, monsieur. Je sais ça un peu. »
Ces réflexions paraissaient causer un profond ébahissement à M. Gradgrind.
« Dans tous les cas, »
continua Sleary, après avoir trempé ses lèvres dans le grog,
« il y a 14 mois, nous donnions des représentations à Chester. Nous montions un matin nos enfants perdus dans les bois. Lorsqu'arrive dans le cirque, par l'entrée des artistes, un chien. Ah, il venait de loin. Il était dans un triste état. Il boitait et voyait à peine. Il alla d'abord à chacun de nos enfants, qu'il flaira l'un après l'autre, comme s'il cherchait un enfant qu'il connaissait. Il vint ensuite à moi, fit un effort, et se dressa sur ses pattes de derrière, tout faible qu'il était, puis il remua la queue et mourut. Mes yeux, ce chien-là, c'était Patte Alerte.
Le chien du père de Cécile ?
Le vieux chien du père de Cécile. Or, mes yeux, connaissant ce chien comme je le connais, je puis jurer que si son maître n'avait pas été mort et enterré, il ne serait pas revenu me trouver. Josephine et Childers et moi, nous avons causé longtemps de la chose, nous demandant s'il valait ou non vous écrire. Mais nous nous sommes dit non, il n'y a rien de bon à dire. Pourquoi troubler l'esprit de Zézile et la rendre malheureuse? De sorte qu'on ne saura jamais si Joop a lâchement abandonné sa fille ou s'il a préféré mourir tout seul de chagrin plutôt que de l'associer à sa misère. Nous ne saurons ça, monsieur, que lorsque nous aurons comment les chiens font pour nous retrouver.
Elle a gardé jusqu'à ce jour la bouteille que son père lui a envoyée chercher pour la perdre.
et tant qu'elle vivra, elle croira qu'il l'a abandonnée par pure affection, dit M. Gradgrind.
Ça nous apprend deux choses, à ce qu'il me semble, n'est-ce pas, monsieur ?
Dit Sleary d'un ton rêveur, tout en sondant du regard les profondeurs de son grog.
D'abord, qu'il y a dans le monde un amour qui n'est pas, après tout, de l'intérêt personnel, mais quelque chose de bien différent. L'autre, que ce quelque chose a une manière de calculer ou de ne pas calculer, qui, d'une façon ou d'une autre, est aussi difficile à expliquer que l'esprit des chiens.
M. Gradgrind regarda par la fenêtre sans répliquer. M. Sleary vida son verre et appela les dames.
« Cécile, ma chère, embrasez-moi et adieu. Mamselle, vous voir traiter Cécile comme une sœur, et une sœur en qui vous avez confiance, et que vous honorez de tout votre cœur, c'est un très joli spectacle pour moi. J'espère que votre frère vivra pour devenir plus digne de vous et pour vous rendre plus heureuse. Monsieur, une poignée de main pour la première et la dernière fois. Ne soyez pas dur envers nous autres, pauvres vagabonds. Il faut bien que l'on s'amuse. On ne peut pas toujours apprendre et on ne peut pas toujours travailler. Le monde n'est pas fait pour cela. Vous êtes obligés de nous accepter, mes yeux. Agissez donc à la fois sagement et charitablement, et tâchez de tirer parti de nous, au lieu de nous pousser à mal par le mépris. Et je n'aurais jamais cru, ajouta M. Sleary,
montrant de nouveau la tête à la porte pour lancer cette péroraison.
« Je n'aurais jamais cru que je pusse faire un si bon pitre. »